Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à cet ingénieur formé à l'ENSAM qui a contribué à la création de la coopération internationale, ou en tout cas la forme qu'elle a aujourd'hui au sein du gouvernement. Depuis une décennie, il occupe désormais le poste de secrétaire général de l'AMAD. Il partagera, nous l'espérons, avec nous ses motivations, son engagement humanitaire et l'importance cruciale de la solidarité. Bonjour Jérôme Froissart.
Bonjour Geneviève.
Est-ce que ça te convient quand je dis que ton engagement, c'est surtout un engagement pour la solidarité? Est-ce que la solidarité, c'est vraiment le mot qui te convient?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce fil conducteur, comme tu l'as précisé, qui m'a suivi pendant les 20 dernières années. Et puis c'est un terme qui n'est pas forcément, qui évoque plusieurs choses hein, dans l'histoire de chacun. Ouais. Et cette solidarité, elle a aussi, je dirais, la définition de la solidarité, pour moi, elle a aussi évolué pendant ces 20 ans.
Ouais, parce qu'on parlait de la coopération internationale. Mais, alors, je me souviens, hein, puisqu'on avait des discussions à l'époque, parce qu'on avait le plaisir de travailler ensemble à l'époque, avec Frédéric Platini, qui était le directeur d'abord du bureau, puis de la direction de la coopération internationale. On avait ces discussions et tu me disais ce qu'il ne faut pas, c'est être un Père Noël. Ce qu'il faut, c'est apporter des solutions qui construisent du développement, en fait.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu cette époque, je dirais, formidable, incroyable, parce que c'est vraiment une chance pour un fonctionnaire. Hein. J'étais jeune fonctionnaire à l'époque avec Frédéric. De développer une coopération publique au développement, alors que les pays... européens, Amérique du Nord, toujours ont cette coopération qui sont depuis plus d'une cinquantaine d'années. Et nous, on a eu cette chance de pouvoir, sous l'impulsion aussi de Bernard Fautrier, qui nous a fait confiance, qui nous avait réunis dans sa petite salle de réunion à la Villa Girasol. On était avec Wilfried Derry, on était trois sur la table de réunion. Et puis on s'est beaucoup inspiré, on a beaucoup échangé avec nos ambassadeurs, parce qu'on avait déjà une coopération multilatérale à travers notre réseau d'ambassadeurs. Donc on a beaucoup appris à travers ces ambassadeurs. Et puis ensuite, la chance de pouvoir développer une coopération bilatérale au développement. Et comme tu dis, développement, c'est un mot très important sur lequel on a beaucoup travaillé. Comment un pays peut tisser des relations bilatérales en du gagnant-gagnant pour justement contribuer au développement, à la lutte contre la pauvreté, à ce qu'on appelle à l'époque les objectifs du millénaire pour le développement, et de les mettre en œuvre de manière très pragmatique, efficace, efficiente. Et tout cela, je dirais, avec l'avantage qu'a la principauté de notre situation particulière, un petit État avec déjà cet engagement qui était fort, soutenu par la famille princière, par le souverain. Et donc, on a cette situation particulière dans cette relation avec ces États où on ne fait pas peur. Je pense que derrière, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas à me
lâcher. Il n'y a pas de géopolitique.
Alors, un peu de géopolitique, bien sûr, mais je dirais que c'est la géopolitique de la paix, du partenariat et d'être en capacité, justement, de tisser du lien, quels que soient, justement, ces enjeux géopolitiques. Et ça a été vraiment une période incroyable de pouvoir tisser cette relation bilatérale. Nos réseaux de consuls, parce que c'était vraiment une coopération aussi très proche, proximité. Et on a beaucoup appris sur le terrain, à travers nos partenaires de terrain, notamment nos consuls. Et ces missions, de ces rencontres, au niveau, je dirais, des institutions. Puis aussi les rencontres des populations, des gens dans les villages, de voir où sont les autorités, où se prennent les décisions, où sont les leaders d'opinion sont les... Et ça, c'est pas forcément, vous voyez, quand on va au Burkina Faso, quand on va voir le matin le Noronaba qui se réunit, on peut croire que c'est du folklore. Mais c'est pas...
non,
ça va au-delà du folklore. Et quand
ça,
on est...
Ça gère la société là-bas, quoi.
Accueilli par le Noronaba et qu'on est connu, reconnu et qu'on a ça... Ça, c'est une carte importante.
Une carte, ouais. Voilà. Parce que tu citais les consuls. En fait, ce qu'il faut peut-être préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est que le réseau de consuls monégas, ce sont des consuls honoraires de Monaco dans les pays. Ce sont souvent des acteurs assez importants ou assez prépondérants de la société sur place, oui. Soit en termes industriels, soit politiques, soit dans des départements médicaux. Enfin, ils sont souvent très, très, très influents. Donc évidemment, quand on veut faire de la coopération avec les pays dans lesquels ils sont, ils ouvrent des portes, ces gens-là.
Exactement, c'est essentiel. Et on a justement eu la chance et d'avoir ce réseau de consuls, ah ouais. d'avoir déjà identifié les bonnes personnes, hein, les bons relais, et des gens qui sont dans la société civile, qui sont des hommes d'affaires, et qui ont leur regard en tant que Burkinabé, en tant que Sénégalais, en tant que Malien, et qui ont un souhait de pouvoir apporter quelque chose de manière concrète à leur pays.
À leur pays, ouais.
Et c'est des consuls qui sont reconnus aussi dans les États, quels que soient, je dirais, les mouvements politiques, et on sait que ça peut évoluer rapidement, mais en sorte que
dans le monde entier,
hein. Exactement, mais peut-être plus, ouais, en tout cas dans cette région du monde, assez rapidement, et des gens qui restent là, qui sont là et qui sont reconnus pour leur intégrité et qui sont reconnus pour leur intérêt de l'esprit général et qui nous ouvrent les portes justement quand on y va. Là, je dois par exemple aller dans quelques jours au Burkina Faso. Mm. C'est pas évident pour un Européen ça de Burkina Faso, mais ouais. Grâce justement, et puis on est connu, et puis ça fait des années, on continue à pouvoir voyager dans ces pays-là, et maintenant, et je pense dans le futur, c'est vraiment une chance.
Oui, oui, enfin, là tu disais dans le futur, mais moi j'aurais tendance à te dire c'est une continuité, parce que le Burkina Faso, tu en parlais avec la coopération monégasque, et là maintenant c'est avec ton autre casquette, mmh. que tu continues d'être actif, ou en tout cas que l'association que tu représentes est active au Burkina. Donc en fait, c'est une continuité qui installe ce lien dont tu parlais, qui peut préparer l'avenir en fait.
Oui, tout à fait. Oui, c'est une continuité. C'est vrai que tu disais tout à l'heure, ça fait 20 ans maintenant, il y a eu cette première phase de coopération publique, où on a beaucoup appris, on a développé cette coopération bilatérale. Alors en termes d'objectifs, je crois qu'on avait commencé à 200 ou 300 millions, de 200, peut-être en francs CFA, mais pas en euros, 200 ou 300 000 euros, on est arrivé à 12 millions d'euros en 2013, maintenant je crois que la COPE est à 20 millions d'euros, donc je pense que c'est une belle réussite à l'image de Monaco à notre niveau, avec une implication forte, maintenant un positionnement fort. Et puis depuis une dizaine d'années, ce nouveau challenge, je dirais, à travers la MAD, où c'est une autre vision de la solidarité. Hein, là, on est dans une solidarité.
Je crois qu'on y reste. Hein.
On y reste, Jonathan. Donc, c'est une solidarité avec un enjeu aussi, parce que le monde, justement, des ONG, ça a beaucoup évolué. La vision aussi, l'approche a beaucoup évolué. Et donc, on a eu tout un travail à faire, justement, pour faire évoluer la MAD, pour passer d'une association, je dirais, traditionnelle, caritative, comme on pouvait connaître auparavant, hein, qui organisait des événements charitables, avec...
Ouais. Des levées de fonds, des financements de structures, voilà.
C'est ça, appuyer des projets locaux et partenaires, et d'en faire vraiment un acteur du développement aussi, et un acteur de la philanthropie impact.
C'est ça, donc ça, c'est le nouveau programme,
c'est la MAD, voilà, il y a eu la MAD 2.0 il y a 10 ans quand on est arrivé, pour faire évoluer justement la MAD en tant que partenaire justement d'un réseau d'associations locales, avec la structuration de l'engagement de la MAD à travers cinq grands programmes. Parce que c'est vrai que ça a été aussi... Bon, coopération, on connaissait un peu les problématiques de l'enfance, mais quand on se concentre sur cette problématique-là, on voit l'étendue, je dirais, du désastre.
Oui, j'allais te dire, c'est un pas beau mot.
Ouais.
Pardon, c'est pas très joli ce que je viens de dire. Mais c'est à l'image de ce que je suis en train d'imaginer quand tu dis l'étendue du désastre.
Ouais.
C'est l'étendue des besoins, c'est l'étendue de ce qu'il faudrait faire, c'est l'étendue des moyens qu'il faudrait mettre en œuvre. Enfin, c'est colossal. Hein.
Et puis les enfants sont vraiment font partie des plus vulnérables, hein, quand il y a des problématiques dans des pays.
Maltraitance, pauvreté, la vie dans la rue, l'accès à l'éducation, c'est...
Et donc, du coup, tu vois, j'ai appris des nouveaux mots, enfant fantôme, enfant soldat, on connaît, enfant chégué, enfant...
Oh là là.
Et enfant fantôme, oui, alors c'est enfant fantôme, justement. Alors, on a découvert ce mot, justement, en Afrique, et on me parlait d'enfant fantôme. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que les enfants fantômes? Mais les enfants fantômes, c'est tout simple, entre guillemets, c'est des enfants qui n'ont pas d'état civil, qui sont nés, et qui n'ont pas d'existence légale, qui n'ont jamais été déclarés. Donc, ils sont étrangers dans leur propre pays.
Oh là là.
Et surtout, ben, ils n'ont aucun droit. Donc, ils n'existent pas, ils ne peuvent pas... Alors, ils peuvent aller à l'école jusqu'au primaire, mais la première fois qu'on demande un papier à un enfant, ça, c'est quand il passe la fin de l'école primaire, son ouais. examen pour passer au collège. Donc ça, c'est la première sanction pour un enfant fantôme. C'est, ben, écoute... Tu n'as pas de papier.
Tu n'as pas de papier, non, donc non. Tu n'as
pas d'examen et c'est fini pour toi. Et cet enfant-là, après, il ne pourra jamais voter, il ne pourra jamais travailler légalement.
Il ne pourra jamais voyager.
Dans le secteur informel, jamais voyager, tout ça. Propre,
jamais propre se présenter étranger, à des élections.
Jamais se présenter. Donc voilà. Et ça, alors, on se dit, tiens, oui, ça peut être à la marge, mais c'est quand même 280 millions d'enfants dans le monde.
Hein. Ah
pas
oui.
seulement en Afrique, mais en Amérique du Sud. Donc ça. Et ça, ça fait partie justement de ces problématiques où on s'est dit. Ça, c'est-à-dire la MAD 2.0, on va spécialiser sur certaines problématiques autour de l'enfance et on va développer des expertises propres autour de ces grandes problématiques. Et autour de cette expertise, on va construire des programmes structurants. Ouais. Donc, on a mis en place 5 grands programmes. Et à partir de ce programme-là, donc, j'ai l'équipe programme, justement, qui développe cette expertise-là, pour adresser ces problématiques, mais pour tenter. On travaille aussi à apporter des solutions concrètes.
Mmh. Parce que concrètement, un enfant fantôme, quand on le récupère, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ?
Alors, justement, tu vois, sur l'état civil, ben, c'est de cette rencontre-là est né un de nos 5 programmes, qui est un état civil pour tous.
Ah oui.
Donc, concrètement, ben, le travail, c'est déjà de réunir des informations, justement, par pays, sur cette problématique, enfin, voir les acteurs locaux qui travaillent sur cette problématique. Et en termes de programme, on a deux priorités. Hein. La première, c'est de dire la solution. C'est pas nous qui avons la solution. C'est pas nous à Monaco.
On peut rien faire.
Ça, on n'a pas la solution.
Chaque pays souverain.
Et c'est la solution, elle est locale. Donc, identifier localement ces partenaires locaux, ces pépites que l'on va identifier, des associations, des entrepreneurs sociaux qui se proposent ou qui testent ces solutions-là, de les identifier. Et donc, on fait une sorte de due diligence, comme si on devait faire un investissement financier dans une société ou dans ça. Donc, on va aller rencontrer au contact, voir les présidents, les équipes, partager sur leur vision, sur leur mission, sur leur ambition, voir comment ils sont structurés, quels sont leurs outils, quel est leur plan de développement, tout ça. Et donc, on fait un premier travail pour se dire, voilà, identifier ces pépites dans l'idée de travailler avec elles et de les accompagner. Parce que le problème aussi dans le domaine de l'enfance, vous avez des grands acteurs, comme des grandes ONG internationales, pour ne pas les citer, et qui trustent un peu le secteur. Et ces ONG internationales, il faut qu'elles fassent tourner leur boutique. Et elles ont beaucoup de frais de fonctionnement, de structures, de ça. Et donc, en réalité, peu va sur le terrain. Et sur le terrain, on construit peu de choses. Une fois que le financement s'assèche, il ne reste pas grand-chose sur le terrain en termes de renforcement de capacité des acteurs locaux, enfin de structuration. Donc, nous, on a pris le parti inverse. On a dit, on a la chance d'avoir nos coûts de structure financés par le gouvernement princier. Donc, on va accompagner ces acteurs locaux dans leur structuration avec l'assistance technique pour progressivement en faire des champions de la protection de l'enfance dans les pays partenaires. Et une fois qu'on a ces partenaires, on va sourcer avec eux, identifier, co-construire des projets particuliers à impact qui illustrent ces programmes. Alors, par exemple, sur l'état civil, tu vois, je te parlais du Burkina Faso, parce qu'on a justement un partenaire là-bas, Tintoua, avec qui on est en train de régulariser 20 000 enfants à l'état civil. 20 000 enfants.
Le chiffre est magique quand tu le dis, et en même temps, il fait peur. Hein.
Ah, il fait peur parce que c'est une goutte d'eau dans l'océan, tu vois. Alors, ces 20 000 enfants...
C'est déjà ça, moi, j'allais te dire. Hein.
Oui, c'est déjà ça, mais l'idée derrière, tu vois, c'est... C'est bien ces 20 000 enfants, mais l'idée derrière, on fait ça parce que, et c'est notre approche de tester des modèles, tu vois, des pilotes.
Ouais.
Donc là, on est parti avec cette ONG-là pour tester un modèle, justement, pour régulariser ces enfants. Alors ça passe, tu me posais la question, quand ils sont adolescents et tout, donc déjà, ils sont identifiés dans les écoles. Les chefs d'établissement, les professeurs disent ouais, qui n'a pas d'état civil comme ça, donc on identifie les enfants comme ça. Et ensuite, ce sont des tournées foraines avec des juges qui se rendent dans les villages comme ça et avec des témoins pour dire bah tiens,
c'est l'enfant,
c'est le fils de machin, comme ça. Et ensuite, il y a donc un officier d'état civil qui établit l'état civil. Donc ça, on le fait au niveau d'une vingtaine de villages.
Donc vous avez réussi à établir un état civil postérieur, quoi. C'est-à-dire,
voilà.
Parce que moi, j'avais en tête, mais peut-être que c'est notre prisme européen, qu'on avait un certain nombre de jours pour déclarer la naissance d'un enfant.
Alors ça, c'est ce qu'il y a à la naissance. Voilà. Ouais. Quoi qu'il y a, ça dépend des pays, mais en moyenne, c'est 5-10 jours. Ça, c'est ce qui se produit dans les pays. Alors, pourquoi on ne le fait pas au Burkina ? Pour plusieurs raisons, parce que... Alors, il y a des problèmes, je dirais, logistiques, parce qu'on n'a pas la mairie forcément à côté, parce qu'on n'a pas, même si ça ne coûte pas très cher, c'est l'équivalent de 2-3 euros, mais on se dit, je préfère mettre 3 euros pour acheter de quoi à manger dans ça que de payer un bout de papier. Il y a quand même une forte réticence vis-à-vis des autorités, de tout ce qui est administratif, parce que malheureusement, souvent, quand on va vers une administration en contrepartie, il faut faire un petit cadeau à l'agent d'état civil. Donc ça arrange pas les choses. Donc ils se disent pourquoi je vais aller déclarer.
On commence à entrevoir la réalité, tu vois.
La réalité. Donc ça, voilà, ça c'est très bien. Et puis après, il y a des facteurs aussi sociologiques et tout. Et dans certains pays, ça, on ne donne pas un prénom à un enfant avant le 10e jour, par exemple, parce que ça porte malheur. Voilà, c'est toutes les choses qu'il faut, sur lesquelles nous on travaille avec nos partenaires, justement,
pour sensibiliser. C'est un peu sensibiliser. Le truc de la HSBC, tu sais, il y avait cette pub qui disait Think Global, Act Local. Ça ressemble un peu à ça, ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'en fait on a des prismes. L'état civil, ça semble être universellement sur notre planète, en tout cas, une nécessité, mais chaque localement, il y a des contextes qui sont complètement différents. Quoi.
Et d'où l'importance de travailler d'être en appui, d'être en support des acteurs locaux. Et comme je dis, à chaque fois qu'on revient de mission, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus reçu que donné, d'avoir appris, d'avoir. Et puis c'est des choses qui nous touchent aussi tous, quoi.
Humainement, je veux dire,
on est tous humainement. Et ça, c'est toujours quelque chose de très, très surprenant. Et pour finir sur ce programme-là, donc c'est vraiment le pilote. On va avoir ces 20 000 enfants. Et là, on est en train de partager justement les résultats avec l'institution burkinabé, la direction générale de l'état civil, pour dire, écoutez, on l'a fait au niveau de 20 villages, on a 20 000 enfants. Et ce qu'on vous propose, c'est maintenant de passer à l'échelle au niveau national. Mais alors, ce n'est pas l'AMAD qui va financer, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais par contre, on dit, ben voilà, on a fait, on a pris
Le risque
avec nos donateurs, parce que derrière, je t'en dirai un mot, mais c'est toujours lié aussi à nos donateurs, parce que
c'est le nerf de la guerre. C'est eux qui permettent de faire.
Mais on embarque nos donateurs dans l'aventure et on a dit, écoutez, voilà, avec nos donateurs, on a mis en place ce modèle-là qui fonctionne à l'échelle de 20 villages et on vous le propose, on vous le partage pour vous passer à l'échelle. Et surtout aussi, alors, de travailler aussi sur l'innovation et on a une autre initiative, on pourra peut-être en parler, Tech for Child, mais sur ce projet-là particulier, par exemple, on a identifié avec un Burkinabé qui a développé un système de code à bulles qui s'appelle e-civil. Et c'est un truc incroyable, quoi. Je veux dire, c'est que tu développes un code à bulles et qui te permet de lier l'identité de l'enfant avec ce code à bulles à la naissance et tout ça. Et ce qu'on va essayer de proposer de le faire, c'est de le mettre en place au Burkina. Et surtout, ce qui va nous permettre de digitaliser l'état civil. Parce qu'au Burkina, comme dans beaucoup de pays, c'est toujours du registre papier. Alors imagine-toi un registre papier dans une mairie ou dans une case, fin fond du village, les termites, la pluie. Puis surtout maintenant, avec les problèmes d'insécurité au Burkina ou dans d'autres pays où des mairies sont brûlées. Donc voilà, on a un vrai challenge par exemple au Burkina Faso de numériser l'état civil, digitaliser l'état civil.
Parce qu'en fait, les données seraient conservées quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que la mairie pourrait être brûlée, mais les données ne disparaîtraient pas.
Exactement. Quoi. Et puis l'enfant n'est plus pas forcément maintenant obligé d'aller dans sa mairie d'origine pour demander un registre et sortir le registre 20 ans après.
C'est ça.
Voilà, c'est des problématiques sur lesquelles nous, on n'a pas forcément conscience, mais il y a, en termes de protection des droits de l'enfant, c'est quand même le premier des droits, c'est d'exister légalement.
En t'écoutant, je me pose la question, elle te semblera peut-être un peu triviale, mais quand on travaille aussi près des problématiques graves d'ailleurs, et impactantes des enfants dans le monde, est-ce qu'on est parfois désabusé, triste, ou pas ?
Ouais, alors ça c'est quelque chose de... Ouais, je comprends. Je pense qu'on est obligé de se mettre une protection.
Ouais.
Dans les premiers temps, c'est toujours. Après, ça, il faut faire. Et c'est pour ça que je fais attention aussi avec l'équipe, parce que c'est quelque chose qui peut être prenant et c'est quelque chose qui peut être envahissant. Et puis on revient, on n'est pas,
On n'est pas intact.
On n'est pas intact. Mais je pense que la protection, c'est de travailler de manière, je dirais, professionnelle. Et ça, on a vraiment fait ce travail pour...
C'est 2.0,
au niveau des équipes, 2.0, on est des professionnels du développement, de la solidarité, tout ça. Donc on n'est pas Mère Teresa, on n'est pas...
C'est ça, c'est ce que tu me disais à l'époque. Ouais. On n'est pas des Pères Noël.
On est là pour... pour partager cette expertise, ça. Après, il y a des choses qui sont révoltantes. Quand tu fais des maraudes de nuit en RDC, que tu as des gosses morts dans la rue parce que la nuit... quand tu as des petites filles... on est en RDC, là. On travaille avec le docteur Mouvégué, et petites filles à 6 ans qui sont violées dans des bordels. Tu peux pas te résigner à ça.
Ouais.
Mais voilà, en contrepartie... on essaye de porter une solution. Ça. Et ce qui est des fois le plus difficile, c'est pas forcément... Parce que c'est de faire le lien et c'est de faire le grand écart. Alors, c'est à la fois une grande chance, à la fois une super opportunité, mais des fois, c'est assez déroutant. C'est de faire le grand écart entre les deux extrêmes.
Ouais.
Ça veut dire entre ces petites filles-là en RDC ou cet enfant que tu as vu
à Kinshasa.
Et puis, nos grands donateurs, les gens qu'il faut qu'on mobilise pour. Parce que c'est le nerf de la guerre, quoi.
Ouais.
Tu vois? Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice qui est. Voilà, qui est à la fois riche, mais qui est des fois très, très déroutant.
Très déroutant.
Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, alors, il y a cet aspect qui est difficile sur le terrain, il y a cet aspect qui est tout ça. Mais en même temps, c'est toujours beaucoup de grandes leçons de vie. Parce qu'on rencontre des gens formidables, on rencontre des gens inspirants. Et c'est pas là. On a peut-être l'impression d'ici de dire tout est noir, tout est gris, c'est la famine, la guerre. Non, au contraire. Même dans les situations les plus difficiles, il y a des gens lumineux, il y a des gens qui.
Il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir, il y a des gens qui se battent, et il y a des vrais gens bien. Hein. Et même dans les gens qui souffrent, à chaque fois, c'est des leçons d'humilité. Ça. Voilà. Donc ça, c'est assez déroutant. Hein?
Parce que tu parlais de vos donateurs.
Ouais.
Et tu viens de dire quelque chose. Tu dis, il y a quand même des gens bien. Il y a des gens bien sur le terrain. Mmh. Et il y a aussi des gens bien.
Exactement.
Des gens qui vous donnent les moyens de faire. Qui sont charitables dans l'esprit en disant, moi j'ai les moyens... Je vais consacrer une partie de mes moyens parce que ce que vous faites, ça me plaît et que j'ai envie d'aider ces gens. Quoi. C'est quand même parce qu'il n'y a pas que des donateurs qui font ça pour faire bien. Quoi.
Ah non. Après, c'est le travail aussi que l'on fait. Et on recherche aussi cette qualité de la relation avec le donateur. Parce que, comme tu disais, ça c'est la MAT 3.0 de se positionner comme un acteur de la philanthropie impact. C'est-à-dire que nous, on est riche de ces 5 programmes. De ces 5 programmes, après, on a un portefeuille de projets à impact. Et puis, c'est de pouvoir être en capacité de proposer à des grands donateurs qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie d'être embarqués dans l'histoire, et qui ont envie de contribuer justement à apporter cette solution au Burkina sur l'état civil, un programme Dignité pour les femmes, justement, sur tout ce qui est les violences sexuelles contre les jeunes filles, l'accès à l'éducation secondaire. On a un super programme, super initiative aussi, sur, peut-être en parler de deux mots sur l'accès à l'hygiène intime aussi pour les jeunes filles en Afrique. Voilà. Donc, différents programmes sur lesquels on échange avec nos grands donateurs. Alors, certains disent, écoutez, moi, ce que vous faites de manière générale, ça m'intéresse et vous savez mieux que moi les priorités où vous affectez. Et après, on a aussi des grands donateurs et on aime bien aussi discuter sur nos programmes, ça, et après, en fonction de l'affinité de chacun. Et puis souvent, c'est aussi en fonction de l'histoire, des fois.
Ça peut.
Des fois, on est surpris parce qu'on a un grand donateur parmi tous. Il me dit, celui-là sur les mineurs non accompagnés, hein, sur les migrants, ça m'intéresse. Ah bon, ça? Parce qu'il y a 2-3 générations, j'étais migrant, tout ça. Et des gens qu'on ne pourrait pas penser, finalement, ils se mettent à financer. Et c'est un programme qui tient à cœur à notre présidente, la princesse Caroline de Hanovre. Qui vient à financer justement l'accompagnement de migrants qui débarquent en Sicile, la formation professionnelle et tout ça. Et du coup, c'est de pouvoir donner du sens pour ces grands donateurs qui ont un souhait d'être solidaires, mais pas forcément outillés pour le faire. Et nous, on se positionne un peu comme le tiers de confiance entre ces grands donateurs.
D'accord.
et les projets que l'on appuie.
Ouais, parce que ça ne doit pas toujours être simple pour eux de faire le tri dans tout ce qu'on leur propose.
Exactement, oui, c'est ça. Voilà, voilà. De faire le tri dans tout ce qu'on leur propose. Donc il faut prendre ce temps de l'échange, de comprendre aussi ce qu'ils veulent faire, pourquoi, quel est le type d'impact qu'ils recherchent, de pouvoir les orienter sur un programme ou des projets particuliers. Et puis après, dans un deuxième temps, c'est de leur faire remonter justement l'impact de leur engagement à nos côtés. Et ça, c'est aussi très important de le partager. Et on voit, entre guillemets, ces deux, entre guillemets, deux richesses, deux flux de richesses, quoi. Il y a le flux de richesses en euros qui passe dans un sens, et puis il y a le flux qui revient dans l'autre de l'expérience de ce qui est fait. Et c'est très intéressant. Et c'est une vraie source de satisfaction. Parce que des gens qui... moi, j'ai l'histoire comme ça, j'ai plein d'histoires de grands donateurs, mais un jour, quand je suis... ça faisait pas longtemps que j'étais rentré à la MAD. Et puis, il y a un monsieur qui m'appelle, qui me dit « Ah, monsieur Froissart, est-ce que vous pourriez venir me voir ? Parce que j'aimerais faire quelque chose, mais bon, je peux pas trop me déplacer. Est-ce que vous pouvez venir me voir ?» Je dis « Mais oui, écoutez, je viens vous voir. » Puis, je viens chez lui, puis il m'explique que c'est un monsieur déjà qui avait assez âgé. Puis, il m'explique sa vie, qu'il avait vécu aux Philippines et qu'il avait envie de faire quelque chose aux Philippines. Et justement, je devais aller aux Philippines, fatalité, comme quoi. Bon. Et j'ai dit, bah, écoutez, ça tombe bien, le mois prochain, je vais aux Philippines, et on a un partenaire là-bas, et je vais voir un peu prospecter, comme ça. Et on est allé aux Philippines, j'ai trouvé une super ONG, Acai, avec qui on travaille toujours, qui fait un super programme sur la réinsertion des jeunes filles victimes d'abus sexuels.
Ah oui.
Et on a un super, vraiment, vraiment un partenaire, une vraie pépite. Et je reviens, et puis j'avais deux, trois opportunités. Et ce monsieur choisit ce projet-là, Acai. Il me dit, écoutez, je veux le financer. Et grâce à son financement, on a pu, cette association qui était une petite structure, en faire un vrai champion, financer une école de vie, justement, qui accueille maintenant plus de 40 jeunes filles victimes d'abus sexuels, qui sont réinsérées dans la société et qui en font une vraie force, quoi, avec ils ont une vraie méthodologie comme ça. Et ce programme a été mis, on a eu les premiers résultats, les premiers impacts. Je suis allé le voir, je lui ai donné le résultat. Et 15 jours après, il est décédé.
Ah.
Et là, je me dis, bah, écoute, peut-être il devait savoir qu'il était malade, je ne sais pas. Il a fait, et puis la fatalité a fait que je devais aller, que on a...
Oui, il y a quand même, dans ce que tu racontes, il y a quand même des coïncidences du destin ou des signes du destin qui font que ça fonctionne. C'est-à-dire que, alors je sais, hein, tu vas me dire, ah là là, quand même, Geneviève, t'exagères, mais la bonne âme, ça existe.
Ben, ça, tu sais, alors après, bon, c'est après chacun, hein, mais ça, la bonne âme, ça existe. Et puis, moi, je crois, souvent, tu ne fais pas les rencontres par hasard.
C'est ça.
Et bon, après, on l'a chacun testé à notre niveau. Hein. Mais c'est vrai que dans ce qu'on fait, souvent, bon, voilà, on a une problématique, on a un truc, je dis, bah, tiens, ça serait bien que je rencontre un tel ou que je fasse some of ça sur le terrain, comme ça. Et ça se fait toujours. Ça se fait toujours.
Et ça veut toujours dire quelque chose.
Je vais te raconter encore une anecdote sur le même projet, tu vois, avec Acai aux Philippines. Et au bout du processus, on arrive, ils ont développé toute la méthodologie et tout. Et je vais en mission aux Philippines et je discute avec notre partenaire. Et je dis avec notre partenaire, écoutez, là, vous avez quelque chose, c'est incroyable ce que vous avez développé. Il faudrait le documenter, il faudrait même poser un brevet sur cette méthodologie de réinsertion psychosociale et tout, parce que nous, c'est aussi notre modèle, c'est quand on a un pilote comme ça, c'est de le documenter et pour pouvoir après
le dupliquer,
le diffuser au sein de notre réseau de partenaires. Et là, mon partenaire me dit, oui, vraiment, c'est bien, mais moi, je connais personne. Et je reste 3-4 jours aux Philippines. Et le troisième jour, j'étais dans le bureau de la personne, le téléphone sonne, et une personne se présente et me dit, écoutez, je suis spécialiste dans les brevets, est-ce que j'ai vu ce que...
C'est dingue.
Et là, on s'est regardé, et il dit, ben voilà.
C'est dingue.
Et ils travaillent ensemble, ils ont déposé le brevet, tu vois. Donc, c'est des... Voilà, après, c'est des choses... Je pense que c'est le cercle vertueux, tu sais, je pense que quand tu fais des choses qui ne sont pas forcément très bien, ben, un jour ou l'autre, ça te revient. Et quand tu t'efforces à cultiver les bonnes énergies, ben, ça revient aussi, donc... Voilà, c'est une suite logique.
Tu parlais des rencontres. Moi, j'aimerais qu'on y revienne deux minutes parce que tu me dis qu'il y a quand même des gens incroyables, même dans la souffrance. Il y a des gens qui se battent et qui veulent... Qu'est-ce que tu définirais comme le trait d'union entre tous ces gens-là? C'est la foi? C'est quoi qui les anime tous?
Oui, ça dépend, hein, parce que... ça peut être la foi, mais pas forcément. Hein, c'est pas que des gens qui croient. en un dieu ou en quelque chose de supérieur. C'est souvent, mais c'est pas forcément ça.
Ils croient déjà au genre humain, parce que sinon
ils croient déjà
possible.
Humain. Après, je crois aussi que c'est souvent aussi des gens qui, dans leur vécu, dans leur enfance, tu vois, on parle de l'enfance, donc on dit tous passer par là.
Ouais.
Et je pense que certains ont vécu aussi des choses dans leur enfance, et ça, qu'à un moment, quand tu es adulte et tout, tu as envie de rendre, quoi. En tout cas, tu as envie d'apporter une solution, comme ça. Voilà,
ou tu as envie de rendre, ou tu as envie de solutionner, ou tu as envie de... Voilà,
oui. Et puis après, j'ai aussi rencontré des gens un peu, entre guillemets, des repentis, quoi. Hein. Des gens qui ont pas forcément bien comportés, ou pas forcément...
Ah oui, ça existe, ça.
Ça existe, oui. Après, et qui forcément... Parce que je pense qu'après, quand tu arrives à un certain niveau, où tu te dis, bah, fatalité, seul devant toi, tu vois, face à toi, et tu dis, j'ai pu faire de l'argent, j'ai pu faire des trucs, machin, mais franchement, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que t'importe ?
C'est sûr.
Ça, voilà, donc c'est... Voilà, c'est voilà.
Alors, justement, parce que tu parlais de l'impact de la philanthropie, ou philanthropique impact, appelle ça comme tu veux, tu parlais de tous ces rapports, de toutes ces données qu'il faut faire remonter aux donateurs pour leur montrer... pour prouver l'efficacité de ce qu'on fait, de dupliquer les modèles, déposer les brevets, etc. Moi, j'ai envie de te dire, tu me parlais tout à l'heure des ONG qui ont des grosses, enfin internationales, qui ont des gros frais de fonctionnement. Alors, comment l'AMAD fait pour gérer tout ça ? Parce que, quand même, et de toujours garder un pourcentage des dons qui est dédié au terrain et pas à l'administration.
Comment on fait pour être efficace sur nos financements ? Ben, écoute, déjà, comme je te disais, nos coûts de structure, bon, déjà, on n'a pas de loyer. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je ne coûte rien à la manne, donc ça, c'est aussi une bonne chose.
Tu ne coûtes rien à la manne ?
Non.
C'est-à-dire
moi,
que tu n'es pas salarié par la manne ?
Je suis mis à disposition par le gouvernement, et donc je ne coûte rien à la manne.
C'est important, ça.
Oui, c'est important, hein, bien sûr. Ouais. Non, ça, c'est un beau geste, je dirais, du
gouvernement.
Du gouvernement,
oui, bien sûr.
Et puis après, l'équipe salariée que l'on a, on a une grande partie, je dirais, plus de 70%, parce que qui est pris en charge par une subvention du fonctionnement, du gouvernement. Okay. Mais la subvention est fixe, donc là, on est en train de se développer. Alors, du coup, on a certains donateurs qui comprennent le truc, qui contribuent. Et puis après, on développe aussi pas mal le mécénat d'entreprise aussi. Donc, on a deux grandes priorités. Hein. On a les grands donateurs, hein, et les entreprises dans le cadre de leur mécénat. Et le mécénat, justement, avec les entreprises, c'est aussi quelque chose qu'elles comprennent, qui a un peu de fonctionnement, parce que c'est un service qu'on leur offre, entre guillemets, d'illustrer leur politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est quelques coûts de structure. Mais en gros...
Parce que c'est l'équation la plus difficile quand on fait, on fait le métier que tu fais. L'équation la plus difficile, c'est d'être efficace et donc d'avoir des moyens et des ressources et de ne pas trop impacter le budget qu'on a avec ces ressources. Quoi.
C'est ça. Non, c'est tout à fait. Voilà. Après, on a peu de frais de mobilisation de fonds parce qu'on ne passe pas... Alors, tu sais, on passe vraiment par les réseaux de nos grands, l'approche directe des grands donateurs. Oui. On met aussi en place des campagnes, tu vois, avec des ambassadeurs qui sont aussi des grands donateurs qui vont mobiliser leur carnet d'adresses, tu vois. Donc, on n'a pas des campagnes comme des grandes ONG qui vont faire des grandes campagnes de publicité.
Oui, on ne reçoit pas dans nos boîtes aux lettres un stylo AMAD en disant
mais par exemple, tu vois, l'UNICEF France, par exemple, comme ça. Tu donnes... Mais c'est 80% du frais de fonctionnement, tu vois, pour financer les structures de fonctionnement de l'UNICEF international, quoi. Donc, voilà, nous, on a notre approche. Et puis après, on a un modèle, tu vois, on a fait, par exemple, notre gala des 60 ans, au mois d'octobre dernier. Donc là, tout le monde a joué le jeu, tu vois, parce qu'on a...
Donc, il n'y avait pas d'invités. Il n'y avait que des gens qui ont payé.
Exactement. Voilà, ça, on est parti, je l'ai proposé à notre présidente, elle m'a dit oui, tout à fait, vous avez raison, Jérôme, on fait comme ça. Donc, pas d'invité. Tout le monde paye. Voilà. Et tout le monde a payé. Et du coup, alors on a eu la chance d'avoir Charles Quézin, qui est un designer belge incroyable, qui est membre actif de l'AMAD, qui a organisé ce dîner surréaliste, gratuitement. On a l'ASBM aussi qui a joué le jeu, qui nous a mis à disposition la scène de l'opéra. Donc ça aussi, après le temps. Et puis, pour l'organisation, on s'est entouré de trois entreprises mécènes qui ont pris en charge justement chacune se répartit le budget d'organisation. Et ensuite, les invités, il y a tout un travail en amont. Il n'y a pas de place. Les places ne sont pas à vendre. Par contre, si vous aimeriez que vous soyez avec nous, et vous faites le don que vous souhaitez en faveur de la MAD. Et on a créé un cercle des amis de la MAD, un cercle des grands donateurs, justement pour ces grands donateurs, les 20 plus grands donateurs. Et ce cercle-là va justement permettre à ces grands donateurs de suivre la vie et l'ambition de la MAD, de se réunir autour d'événements dédiés, de rencontrer certains de MAD partenaires, de les sensibiliser sur la philanthropie. Et puis pour certains qu'ils souhaitent aussi d'avoir ce retour, de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir rencontrer nos partenaires. Donc voilà, c'est un peu le modèle qu'on souhaite développer. Alors c'est un vrai challenge, ouais. Parce que il faut savoir que la philanthropie, c'est quelque chose qui est plus peut-être pratiqué, reconnu dans les gènes aux États-Unis, par exemple.
Anglo-saxon, voilà. J'allais te dire, philanthropie, c'est plus l'esprit anglo-saxon.
Donc on sait pas mal, on est en relation avec des fondations aux États-Unis, on a pas mal d'échanges et tout. Donc on aimerait bien impliquer un peu ce modèle ici, mais c'est un vrai challenge.
Parce que c'est finalement ce que tu me dis, c'est que c'est culturel aussi.
C'est culturel, ouais.
C'est culturel aussi. C'est pas que quelqu'un qui se dit qu'est-ce que je peux faire avec l'argent que j'ai gagné. C'est aussi culturel de dédier une partie de ses ressources personnelles à des programmes qu'on vous propose, quoi.
Ouais, tout à fait.
Il y a peut-être, ce tropisme aussi, tu sais, dans le monde qui n'est pas anglo-saxon, de dire tout ça ne repose pas sur du professionnalisme.
Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et c'est en cela qu'on veut aussi changer un peu les mentalités, tu vois. De faire comprendre que... Non, parce qu'on a cette image-là du caritatif, du charitable. Je donne pour me donner bonne...
Je rassemble des vêtements, puis je fais un marché.
Et c'est ça. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est aussi, c'est aussi ça.
Oui,
et
parce moi, que tu sais, on est toujours touché. Je dis pas que c'est du charitable, mais on est toujours touché. Tu vois, le vestiaire de la Croix-Rouge. Enfin, il y a aussi des choses qui sont très simples et qui touchent les gens, hein, qui apportent quelque chose de très utile.
Non, faut faire. Je pense qu'il faut aussi, quand on fait ça, une bonne introspection de soi-même, de dire pourquoi je le fais, quoi.
Et ouais.
Hein, c'est ça.
Bah oui. Pourquoi je le fais.
Donc c'est ça aussi, quoi. Et on a besoin de ces acteurs. Ça veut dire l'un n'empêche pas l'autre, quoi. On peut être professionnel, mais on peut aussi donner du sens. On peut être aussi proche des partenaires, proche du terrain, apporter ces solutions-là, tout en restant professionnel. Je veux dire, un médecin, vous lui demandez pas qui vient de vous prendre dans les bras et pleurer avec vous.
Non, c'est ça. Tu dis pourquoi je le fais. Alors moi, j'ai envie de te demander pourquoi tu le fais. Parce que si je regarde un peu ton parcours...
Je vois que tu as
beaucoup voyagé en Amérique du Sud, quand tu étais étudiant en Afrique, etc. Tu as travaillé sur une plateforme pétrolière au milieu de nulle part. Très bien.
Pas longtemps.
Pas longtemps, mais quand même. Alors pourquoi tu le fais? C'est quoi le jour où tu décides de dire la solidarité, c'est mon truc?
Alors, c'est vrai que dans ma formation, moi j'ai plutôt une formation, comme tu as dit, d'ingénieur. Quand j'ai fait une prépa, parce que j'étais bon en maths, en physique. c'est la voie de la facilité.
Tu fais ta scolarité ici?
Ouais, j'ai fait. À l'époque, c'était les Dames de Saint-Maur, et après, j'ai fait le lycée à Albert Ier. Après, j'ai fait maths sup à Aix-en-Provence. Et puis, j'ai fait une école d'ingénieurs, les arts et métiers, qui est une école d'ingénieurs généralistes. Et puis...
Les arts et métiers, c'est quelque chose,
quoi. Oui, c'était une bonne école, c'était une bonne expérience. Puis, c'est une belle formation généraliste et très bien. Et puis, voilà, c'est des formations qui destinent plutôt à des métiers de l'industrie et tout ça.
Bon. Le pétrole.
C'était, voilà. Alors, j'ai fait une première expérience... Alors, c'était ma... je crois que c'était ma... Non, c'est pas ma première expérience en Afrique, parce que ça a été à travers les arts métiers. Mais le pétrole, c'était parce qu'à la fin de la dernière année, j'ai eu deux expériences professionnelles. Une première, c'était à Eurocopter, où je travaillais sur l'usinage d'un aspect spécial. Pour... Donc voilà, c'était bien, mais bon, je dis, bon, parce que toute ma vie, je vais...
Je
décris pas, mais bon, c'était pas... Ouais, voilà, ça m'a pas forcément passionné, mais c'est intéressant, intellectuellement, mais c'est pas ça. Et puis l'autre expérience, alors c'est pas ça qui m'a donné le goût à l'Afrique, heureusement. Au contraire, ça m'a même un peu refroidi, parce que j'étais parti pour Schlumberger. Mmh. Et Schlumberger, c'est une boîte qui est dans le secteur pétrolier.
Mmh.
Et c'était au Nigeria, à Wari. Et c'était pour partir sur une plateforme pétrolière, pour ce qui c'était pour étudier les puits, vous savez, pour le forage et machin. Et c'était dans des conditions très particulières, parce que Nigeria, c'était quand même très, très, très tendu. Et on vivait dans
C'est ça, moi j'ai l'idée du Nigeria il y a 20 ans, qui était plutôt en guerre. Hein.
Ah oui, c'est la guerre totale. On était dans un compound fermé, sécurisé et tout, on ne pouvait pas sortir. Et je suis parti sur la plateforme pétrolière pour le truc. Et puis un beau jour, on voit des pirogues arriver et tout, voilà. Des gars armés, de ça. Ils ont dit, vous arrêtez tout. On est rentré dans nos chambres, là. Et ça a duré 24 heures, ben, ça. Et c'est le jeu là-bas, c'est le rançonnage, quoi. Donc voilà, c'était ma première expérience africaine. Donc ça n'a pas été ça qui a décidé le truc.
Mais tu t'es quand même dit, c'est pas. C'est, ouais. On n'est pas à la maison là.
On n'est pas à la maison, exactement. Non, parce que c'était ma première expérience après. Vous voyez, tu vois Monaco, c'est pas mal. Et non, je pense que le premier accroche, c'était toujours aux arts et métiers. On avait monté avec les étudiants un projet au Sénégal de riziculture. C'était un projet de digue pour les gens qui cultivent le riz dans le sud de la Casamance. Donc on avait fait toutes les études, les plans, tout ça. Et ensuite, on est parti 3 semaines dans le village au Sénégal. Et là, on a été vraiment accueillis par la population qui nous avait construit la case et tout. On a vécu 3 semaines avec la population et on a travaillé avec eux, on a réalisé cet ouvrage. Et je pense que c'est là aussi que ça m'a intéressé. Mais ça m'a dit, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a une autre vision qu'on pouvait avoir du continent africain, parce qu'en partageant la vie. Et puis, j'ai pris un petit temps après mes études où j'ai beaucoup voyagé, tu vois, sac à dos. Et là, je suis parti vraiment...
T'as fait le gap year comme les Américains.
C'est ça, exactement, avec mon Lonely Planet. Et là, j'ai parcouru pas mal l'Afrique, l'Amérique du Sud aussi, où il m'est arrivé aussi quelques aventures. Et puis après, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh ben, c'était l'ouverture de Monaco, l'avènement du souverain. Ouais. Et puis j'avais quand même cette ambition-là.
Consacrer 0,7% du PIB
au
développement, ce qui est l'aide publique au développement, ce qu'on appelle, hein, qui est quand même un indicateur fort pour un pays.
Quoi. Exactement. Et cet engagement fort qui m'a inspiré quand j'ai écouté le discours d'avènement du souverain. Et puis j'avais envie, bien sûr, de faire quelque chose aussi pour mon pays. Et puis l'opportunité s'est présentée avec... Bernard Fautrier, comme tu disais. Et puis,
Recrute parce qu'il connaît ton CV ou c'est...
Écoute, je pense qu'après, c'est, comme on dirait tout à l'heure, la Providence, peut-être, mais c'est
une fois. Hein.
Mais je ne pense pas que c'était... Oui, je pense qu'il avait vu tourner mon CV.
Ouais.
On s'était rencontrés une première fois. Parce que j'avais commencé, j'étais rentré dans... J'avais eu un petit temps d'abord, c'était à la direction de l'urbanisme. Parce que j'avais commencé à la direction de l'urbanisme. Mais ça a été très bref. Et tout de suite, je me suis mis en relation avec Bernard Fautrier et tout. Et c'est de là où ça a accroché. Et comme tu dis, cet engagement des 0,7%, ça a été vraiment une super période.
L'ambition de 0,7%, c'était l'objectif.
Et puis, il y avait quelque chose qui était très... Alors, je pense que ça se fait toujours, mais c'était le vivier. Je ne sais pas si ça se fait toujours.
Ah, maintenant, ça s'appelle la formation supérieure d'administrateur, monsieur.
Ah, on a changé. Bon.
Voilà. Le principe est le même.
C'est le principe. En tout cas, le principe était vraiment bien. C'est de pouvoir justement former ces jeunes, cette nouvelle formation, cette nouvelle génération. Et c'était une belle chose. Et puis, j'ai eu la chance, alors, très tôt de partir, d'être détaché au Maroc.
Ouais.
À l'époque, c'était la COP7 de Marrakech sur les changements climatiques. Et là, j'ai dû passer 6-8 mois.
Imagine, on est à la COP28 maintenant.
À la COP28, tu vois.
Imagine. Ça veut dire que depuis 28 réunions, on parle de ça.
Et on
n'est toujours pas arrivé. Hein.
Ben, du coup, à l'époque, c'était les Marocains qui organisaient ça. Et moi, j'étais en plein avec le ministre marocain et tout. On a monté ça. Et c'était une super expérience de le partager avec les fonctionnaires marocains à Rabat, puis après à Marrakech. Et on parlait à l'époque des mécanismes de développement propre, c'était le tout début et tout ça. Et puis après, j'ai eu aussi l'opportunité de faire une formation complémentaire à l'ENA. Donc ça m'a, tu vois, un peu, je veux dire, complété cette formation plutôt technique.
Ça a structuré les choses.
Structuré, voilà. Et je pense que c'est, tu vois, cette expérience-là dans l'administration...
La MAD 2.0 ne sort pas de nulle part.
Et puis ce qu'il y a aussi, je pense, dans ce qu'on fait actuellement, ça a développé aussi ce côté un peu de comment dire de diplomate, en tout cas, de cette relation, tu vois, de diplomate. Et quand tu fais un peu le point de dire, ben voilà, où sont tes points forts, tes points de ça, je pense que c'est dans cette capacité à rapidement identifier, si tu veux, qui tu as en face de toi, de te mettre, entre guillemets, à niveau, en fonction de qui tu as, et de te sentir à l'aise, quoi qu'il arrive. Ça, c'est ça.
Et c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure de l'impact que ce que tu vois et de ce que tu vis sur toi, parce que pour se sentir à l'aise, peut-être qu'il y a aussi cet impact qui peut modifier ton comportement.
Ouais.
Tu disais, on n'en sort pas indemne. Est-ce qu'on arrive à rester lucide? Est-ce qu'on arrive à rester sur l'objectif? Voilà, c'était ça la question aussi.
Alors, tu sais, alors pour revenir un peu en arrière, pourquoi j'ai fait ça, je l'ai compris qu'après, pas tout de suite. Alors, tu te dis, fatalité, la vie, c'est quand même incroyable.
Encore une fois.
Parce que je ne suis pas parti, si tu veux, mes études et tout, pour me dire, je vais faire quelque chose pour l'enfance ou je vais faire quelque chose pour le développement, tout ça. Et c'est que maintenant que je réalise que en fait un peu la vie de ces enfants et tout, c'est un peu la mienne. Tu vois? Parce que moi, j'ai malheureusement perdu ma maman très tôt. J'avais 7 ans. Et à 7 ans, quand il te tombe ça sur la tête, c'est le monde qui s'écroule, tu vois.
C'est sûr.
Et il a fallu faire face. Il a fallu survivre à ça. Il a fallu
parce qu'on n'a pas le choix.
Te protéger. Il a fallu. Dans un monde où tu comprends pas trop ce qui arrive, ça, et continuer, quoi. Et puis, c'est là où tu développes ces capacités, je pense, d'écoute, d'observation. Après, je pense que t'as deux options, quoi. Où tu deviens la colère et que tu le rebelle et que tu... Là, je le vois, tu vois, on travaille sur des programmes avec l'aide sociale en enfance et je vois le parcours de ces gosses, quoi. Et t'as vraiment les deux profils, quoi. T'as ceux qui crient leur incompréhension, qui s'en remettent pas. Et puis, t'en as certains qui prennent sur eux, qui mettent leur coquille et qui cheminent en disant, pas forcément tout de suite savoir où ils vont aller, mais ils se disent, écoute, il y a une voie, il faut que je la suive et après tu te réalises. Et voilà, je pense que j'ai pris cette deuxième option-là. Et c'est maintenant que je le réalise, parce que je ne l'avais pas forcément réalisé avant. Et puis après, c'est le fait aussi d'être papa, qui change pas mal les choses.
Bien sûr.
Mais voilà. Donc voilà, après, voilà, comme toi, tu te dis, il n'y a pas de hasard dans les choses.
Non, il n'y a pas de hasard, parce que ce que tu dis, en fait, hein, quand tu fais ce parallèle entre ta vie et la leur, c'est que le drame, voilà, il faut gérer le drame. Chacun a sa façon d'appréhender le drame et d'en sortir. Tu peux en sortir révolté, tu peux en sortir constructif, enfin constructif si c'est possible, mais solidaire en tout cas. Donc ce dont tu parles, c'est avant tout de la nature humaine, quoi.
Et tu peux en sortir, comme tu dis, renforcé, en faire une force, tu vois.
Ouais.
Et c'est ce que je vois dans les programmes que l'on fait, tu vois, de ces jeunes qui... Voilà. Se peuvent sortir transformés et en faire vraiment quelque chose à avoir en plus, tu vois. Ça, c'est une force.
Bah, on dit toujours quand on a eu un drame, on a... Alors, on avait cette discussion l'autre jour avec Nicolas Saussier, qui s'occupe du bureau de presse du Palais Princier, et qui me disait, ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est pas forcément vrai. Mais c'est ce que tu es en train de me dire, toi. Ce qui ne tue pas rend plus fort, en fait.
Voilà. Alors après, ça n'empêche pas que tu as toujours ta sensibilité, tu peux avoir certaines failles et tout ça, comme tout le monde. Et ce que je pense aussi qui est important, ce que je vois maintenant et ce que je fais, c'est que c'est aussi important d'avoir l'opportunité dans ta vie d'avoir des mentors ou des gens qui sont au bon moment et là, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi. Tu vois,
mot que tu utilises, mentor, parce que c'est dans le mentor, il y a le guide aussi. Il y a celui qui cadre les choses. Dans le mentor, il y a plein de choses. Et c'est important, parce que quand tu parles de Bernard Fautrier, tout à l'heure, j'ai failli te dire, c'était votre mentor, en fait.
Exactement. Exactement, comme Henri Fissor.
Comme Henri Fissor l'a été, voilà.
Comme d'autres personnes, et tu vois, dans cette administration, dans l'histoire que l'on a vécue. Et tu vois, à travers la MAD, on a développé un programme sur le mentorat, justement, pour les jeunes de l'aide sociale en enfance, un programme de mentorat pour les jeunes, justement, qui sont dans les lycées prioritaires sur Nice, tu vois. Et puis voilà, quand tu vois ça, tu te dis, En tout cas, je pense que c'est aussi riche de cette sensibilité-là qui te permet justement de répondre un peu de manière impactante. Et surtout, tu vois, dans la discussion, c'est de dire le travail qu'on veut faire, c'est pour apporter une solution. Ce n'est pas pour se faire plaisir ou pour se dire
c'est ça, c'est on pas fait pour du bien. Gratifier.
Voilà. Chacun de ses enfants.
Quand tu dis on veut pas être des Pères Noël, c'est ça que tu dis.
C'est ça. Voilà.
On veut leur apporter une solution. On ne veut pas juste se faire du bien en pensant qu'on a été gentil avec eux. Quoi.
Exactement. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis le deuxième leitmotiv, c'est, tu sais, on a ce hashtag parce que chaque enfant compte.
Ouais.
Et c'est ça aussi, tu vois. De ne pas tourner la tête, tu vois, ces enfants fantômes où tu as les enfants sorciers, tu vois, les qui sont accusés de sorcellerie où ton travail, les enfants chégués, les enfants des rues, les enfants, tu vois. De dire, non, bah, on a vite fait, les enfants, tu sais, ça gêne, on tourne la tête, ils n'ont pas droit à la parole, ils n'ont pas d'ambassadeur, ils n'ont pas de...
C'est vrai, ça. Pourquoi on n'a jamais créé un ambassadeur pour les enfants?
Alors, c'est une bonne question, parce que je pense que les meilleurs des ambassadeurs pour les enfants sont les enfants eux-mêmes.
Ouais.
Tu vois. Alors nous, c'est ce qu'on a, tu vois, dans la MAD, on a trois grands métiers. Pas mal parlé du programme, métier programme. Mmh. On a le métier la philanthropie. Et le troisième métier pour moi, que je veux qu'on développe et qui est essentiel pour moi, c'est ce rôle-là d'ambassadeur pour les enfants.
Ah bah oui.
C'est de sensibilisation, de plaidoyer et de donner la parole aux enfants. Pour que eux-mêmes justement puissent, tu vois, faire ce plaidoyer de que ces problèmes-là soient incarnés, tu vois,
ouais.
Parce que rien de tel de parler d'un enfant fantôme ça, que par le parcours de ces enfants et leur témoignage. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va commencer à travailler. On l'a déjà fait à travers de la photo, à travers quelques docs, mais c'est aussi une vraie richesse, tu vois, parce que dans cet échange-là, dans ces témoignages, ça résonne aussi en nous. Tu vois,
oui, bien sûr.
Et puis il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être avoir beaucoup, avoir tout ça, et qui souvent sont malheureux, tu vois, ou n'ont pas de sens. Et je pense que c'est en tout cas, c'est souvent quand. Alors c'est un sentiment, ça je ne sais pas l'expliquer, mais quand je reviens de mission, et c'est l'équipe aussi, hein, j'ai un sentiment de vide, tu vois.
Mmh.
Et c'est quelque chose d'assez particulier. Et c'est parce que tu as été plein de ce que tu as reçu sur le terrain. Et l'envie, c'est de pouvoir le partager aussi, tu vois, avec des gens qui n'ont pas forcément la possibilité. Et puis, de le guider aussi, hein, parce que... Ouais. Et puis, c'est aussi important, dans notre communication, de dire, il y a des problématiques, moi, on apporte des réponses, tu vois, et on le partage avec vous, il y a un espoir, quoi. On n'est pas là pour... Parce que, tu sais, on est dans un monde qui va devenir de plus en plus, je pense... angoissant ou
anxiogène,
on comprend pas tout ce qui nous arrive, machin. Donc nous, je pense que notre niveau, c'est de pouvoir humaniser déjà les choses, de pas voir tout comme un danger ou tout comme une fatalité ou tout tourner la tête, mais de partager justement c'est ce que l'on fait et les solutions que l'on apporte et de donner la parole à nos partenaires et aux enfants.
Alors j'allais dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Et puis, j'aurais envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce que tu entreprends là, voilà, parce que on peut difficilement, même si tu es papa, tu l'as dit, hein, tu as deux filles, tu es marié, donc tu as une vie de famille, tu as autre chose que la MAD dans ta vie, mais quand on discute comme ça avec toi, on se dit, c'est quand même l'aventure d'une vie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette aventure, en fait?
Ah, c'est une bonne question. Écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que déjà qu'on arrive à réaliser cette ambition-là, parce que c'est pas encore joué. Hein.
C'est ça.
Parce que tu vois...
Alors, l'étendue du désastre, c'est ça.
Oui. Après, tu vois, en termes de plan de développement pour la MAD, tu vois, la MAD, actuellement, on mobilise à peu près 1 million d'euros par an.
Mmh.
C'est bien, mais c'est pas grand-chose non plus.
Oui, c'est pas beaucoup.
1 million d'euros, tu vois,
c'est une goutte d'eau.
C'est pas le prix d'un studio ici, quoi.
C'est ça.
Donc on a une ambition de passer à 3 millions, de là, ça serait pas mal pour ça, mais c'est un vrai travail. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est de pouvoir justement, voilà, avoir ces... Parce que nous, voilà, on le porte, on l'a, tu vois. Peut-être d'avoir de ces donateurs, de ces gens qui ont envie de... Voilà, peut-être faire un appel à Providence, d'avoir deux, trois, tu vois, personnes qui disaient, bah, tiens, ce que vous faites, j'y crois, On est un peu en mode start-up. Hein. Donc, tu vois.
C'est presque des business angels.
C'est business, voilà. Hello business angels dans le domaine de la philanthropie. Voilà, partager notre modèle, c'est ça. Pour moi, c'est aussi de bien structurer l'équipe et ça. Pour être. Parce que c'est vrai, alors j'arrive à la cinquantaine. Alors, je ne sais pas si c'est un âge. Le truc, mais c'est vrai que ça m'était jamais arrivé.
De penser.
Mais là, je pense, tu vois, à l'après, à la transmission. Et ça m'était encore jamais arrivé. Donc, je pense à ça. Et puis après, parce que j'ai plein de choses qui m'intéressent, tu vois. On a parlé de ce volet-là, de ces relations internationales, de cette diplomatie. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on aura vraiment besoin et que Monaco a une carte à jouer dans ce domaine-là, tu vois. De plus en plus, quoi, tu vois. Et si on a, je pense, on a une carte là-dessus, hein, ce rapport au monde, de cette place justement où on peut venir encore ici parler, se rencontrer, discuter, où on peut...
En paix,
ça c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être, voilà, bien l'idée. Et puis après, j'ai autre chose qui est complètement différent, c'est que... J'ai envie d'agriculture. Alors, c'est un truc, tu vois. J'ai envie de campagne. Donc, sinon, le plan B, c'est devenir paysan en Afrique.
Voilà. Ouais, voilà.
Mais ça n'a rien à voir.
Ouais,
voilà.
J'allais te dire agriculture, mais pas agriculture ici. Hein.
Non, pas ici. Non, sur les toits. Mais bon, je crois que c'est quelqu'un qui a déjà eu l'idée. Mais ouais, non, c'est voilà. C'est l'autre alternative, quoi. Mais bon, en termes, justement, sur la philanthropie, sur la MAD. Il y a encore, on est au tout début. Quoi.
Puis si un jour tu t'installes et tu deviens agriculteur en Afrique, t'inquiète pas, on viendra te voir.
Hein. Ah ben, vous inviterez, avec plaisir. Hein.
Ben, merci Jérôme, c'était vraiment passionnant. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci beaucoup.